Ben, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Je suis très heureuse d'accueillir Céline Lesourd. Je te remercie donc Céline d'accepter de venir à Gignac au bistrot des ethnologues nous parler de ton dernier ouvrage, donc Puissance 4, vie politique d'une plante stimulante, paru en 2019. Et selon la célèbre formule de Kopitov, je dirais que tu fais la vie sociale d'une plante qui va nous dévoiler les dessous de la société éthiopienne. Et je voulais d'emblée préciser pour le public que le CAT, en fait, son nom scientifique, c'est Cata edulis. Et en fait, c'est un arbre dont les feuilles riches en alcaloïdes produisent chez les consommateurs des effets euphorisant, comparable à l'amphétamine. Enfin, voilà, ça donne comme ça d'emblée une idée sur le sujet de quoi on parle. Et il me semble que ta recherche, Céline, nous permet de découvrir de l'intérieur un monde totalement inconnu, enfin en tous les cas totalement inconnu de moi-même, puisque ce sont les consommateurs de cadre de la ville de Dirdawa, de la région de Harar, dans l'est éthiopien. Et on apprend en lisant ton ouvrage, en fait, que c'est une région qui fut le lieu historique d'une culture agricole du CAT et que Dirdawa, un lieu de consommation historique et qu'il est encore aujourd'hui. Donc, en fait, Céline, elle a suivi la vie sociale de la plante en s'associant elle-même au broutage, comme tu dis, du rameau. Tu es allée dans les salons de CAT. Hein, tu as donc vécu personnellement, en fait, les états euphoriques et que ça provoque, et donc en suivant les traces, en reniflant, en mâchouillant cette plante, qui est donc interdite chez nous hein, en France. Et donc, elle s'est donnée, Céline, corps et âme, pour ce terrain éprouvant, puisque en fait, le côté euphorisant a dû être quand même une sacrée aventure, mais on en reparlera certainement tout à l'heure. Et donc, en tous les cas, cet ouvrage nous donne une vision, une compréhension fine de l'Éthiopie, une Éthiopie contemporaine, hein, de l'intérieur, à travers donc, le CAT, qui est considéré en France comme une drogue, hein, et ce, en opérant une ethnographie, embarquée dans les pratiques de consommation du CAT, mais aussi dans les observations de lieux de vente, en suivant aussi les lieux de production. Et je dirais que c'est aussi cet ouvrage pour moi une sorte d'anthropologie politique qui en fait permet une analyse fine de la politique éthiopienne avec ses formes de surveillance autoritaire, les résistances élaborées par les subalternes que sont les gens des mondes ruraux mais aussi les urbains qui consomment. Bon, je ne vais pas en dire plus, je voudrais juste dire pour te présenter au public ce soir que pour moi tu es et ça se voit à travers cet ouvrage, une anthropologue chevronnée. Tu as appris à parler les langues des terrains sur lesquels tu as effectué de longs séjours, en Mauritanie notamment. Et puis, je pense que tu as aussi été au Niger, et notamment donc là en Éthiopie, où tu dis dans ton ouvrage qu'elle a passé Noël en enfer. Je pense que ça aussi, c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi les anthropologues se retrouvent à observer l'enfer et à vivre l'enfer, des fois, et à passer Noël en enfer. Et donc, en fait, on peut dire aussi que, en suivant le cas, tu es allé en Chine, ce qui est plus étonnant, puisqu'on dirait que tes terrains sont quand même plutôt des terrains africains. Et puis, je pense que ton anthropologie, c'est une anthropologie intersubjective, parce que si vous lisez l'ouvrage, vous verrez, dans Puissance 4, on comprend les relations que tisse Céline Lesourd avec les personnes qu'elle a rencontrées sur le terrain. Avec détail, on sait exactement comment se sont passées ces relations, et dans un langage qui oscille entre poésie, langage scientifique et langage parlé. Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue toutes les deux, hein, sur l'importance, en fait, du verbe en anthropologie. Et donc, la question du verbe, la question du style est très importante, me semble-t-il, et ça transparaît dans ton ouvrage, parce que je sais que, par ailleurs, tu es une dévoreuse de romans. Et donc, on sent que dans le suivi des personnages, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un héros ou une héroïne, finalement, qu'on va suivre dans sa trajectoire quotidienne. Et donc, il me semble aussi que Céline, elle a choisi des objets de recherche qui ne sont pas forcément communs. Elle sort des sentiers battus avec cette plante euphorisante. Hein, donc, il a fallu effectivement que tu la testes, toi aussi. Les femmes commerçantes, les élites, les femmes commerçantes dans toute leur puissance en Mauritanie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant donc, de voir comment tu leur donnes de la place, et notamment dans le chapitre 5, mais je ne dirai pas plus, hein, on voit comment une des négociantes du CAT, en fait, a pleinement la parole. et comment elle raconte sa vie et comment elle arrive à être réflexive par rapport aux enjeux de la production du CAT, de son commerce, avec les questions de religion, les questions identitaires, etc. Donc il me semble que vraiment, ça transparaît très fort dans ton travail. Et puis, pour continuer à te présenter, je voulais mettre l'accent aussi sur la place qu'occupent les femmes dans ton travail. Tu as soutenu une thèse en 2006 sous la direction de Pierre Bonte, où tu as justement analysé les succès féminins des femmes d'affaires mauritaniennes dans leur relation avec la sphère du pouvoir. Et donc, du coup, à partir de ces enquêtes, tu as publié deux ouvrages, Femmes d'affaires de Mauritanie, chez Cartala en 2014, et mille et un litres de thé, enquête auprès des femmes d'affaires mauritaniennes, dans la collection Près de Loin en 2010. Et donc, dans ces recherches, les femmes, et ces femmes que tu désignes dans des femmes de grandes tribus commerçantes, filles de bonnes familles, ou de groupes statutaires méprisés, héritières rebelles, ou épouses prospères, ou encore amoureuses vagabondes, bah, tu les présentes de manière totalement inédite, finalement, comme des pionnières. Je dirais des classes d'affaires féminines mauritaniennes. Et donc, en fait, on voit à travers ces exemples-là, que ce soit celui sur le CAT et les vendeuses de CAT ou sur les femmes mauritaniennes, comment tu abordes les questions de la mondialisation et de la globalisation, finalement, de manière totalement inattendue par le plus petit bout de la lorgnette, en fait. Donc, actuellement, j'ai pris un peu la chose à l'envers, vous avez dû vous en apercevoir. Je te présente en disant qu'aujourd'hui, tu es chargée de recherche au CNRS, au centre d'Albert Elias. Et donc, que tu as été recrutée en 2013. Voilà. Le dernier point sur lequel je voulais insister pour te présenter, donc il y a le fait d'être une anthropologue chevronnée, de donner la parole à tes interlocuteurs, de donner de la place aux femmes dans tes enquêtes de manière inattendue, puisqu'en fait ce sont des femmes puissantes dont tu nous parles. Eh bien, il me semble que le dernier point qui te caractérise, c'est la question des écritures alternatives, puisqu'en fait tu es soucieuse de rendre accessibles tes enquêtes au plus grand nombre, comme on peut le voir sur la diapo, où tu as publié en collaboration avec un écrivain voyageur, le dessinateur Nicolas Delot, un récit illustré de cette enquête dont nous allons parler ce soir. Et donc, ça s'appelle Stupéfiante, et tu as publié ça dans la revue des bandes dessinées Le Cri du Margouilla, qui est une revue réunionnaise qui, en fait, publie à La Réunion des recherches dessinées. Et ben pas que, hein, parce qu'en fait, c'est aussi une association qui s'occupe de valoriser des bandes dessinées de collectifs d'artistes, etc. Et ce que je voulais juste te dire pour terminer aussi, avant de te donner la parole, c'est finalement que tu appartiens aussi à la Fabrique des Écritures à Marseille sur les nouvelles narrations en sciences sociales au Centre Norbert Elias, où vous interrogez la manière de rendre accessible le résultat des recherches scientifiques autrement que de manière académique. Et donc, dans la fabrique, il y a la possibilité de penser à faire des documentaires, de faire des romans graphiques, des bandes dessinées, de travailler avec des professionnels de l'art, des techniciens de l'image. Et voilà. Et donc, je pense que ton travail, notamment Les Stupéfiantes, s'inscrit dans cette idée de diffuser auprès d'un plus large public la manière dont on fait du terrain, la manière dont on traite des questions de société. Voilà, et donc je pense que le fait que tu sois là ce soir va aussi dans cette filiation-là. Et je te donne la parole pour nous présenter Puissance 4, donc ce dernier ouvrage que tu as publié il y a trois ans.
Trois ans, oui. Ouais. Merci pour cette présentation, je suis presque émue. Et merci beaucoup pour votre invitation, ça me fait très plaisir d'être à Géniac. Alors, je vais... Ma présentation va s'articuler en deux temps, avec une introduction qui va être un peu longue, parce que je vais donner pas mal de précisions. Au début, je me suis dit, c'est une intro un peu longue, ça va être un peu long de rentrer dans le sujet. Puis après, je me suis dit, finalement, ça va être une intro un peu longue comme une partie de 4, parce qu'une partie de 4, on arrive, il ne se passe pas grand-chose, il faut mâcher longtemps pour en arriver au cœur du sujet. Donc là, je vous propose une introduction un petit peu longue, pour arriver donc à ce qu'on appelle au mercana, donc le cœur du propos. Donc, une succession de précisions, d'abord directement pour dire ce que c'est que le CAT. Donc, Chantal vous a dit que le CAT, donc son nom scientifique, c'est Cata edulis. Le CAT, c'est un arbre, même un arbuste qui fait 1,50 m de haut et qu'on plante exactement comme la vigne. Donc, on appelle ça des cateras, c'est des rangées de pieds de CAT. avec au pied, c'est communicatif, avec au pied de ces, au pied de, donc, de ces pieds de quatre, des oignons, des pommes de terre, donc vraiment une agriculture vivrière. Le quatre pousse sur les mêmes terres que le café, et ça c'est important de l'avoir bien en tête, sur qu'est-ce qui peut circuler et qu'est-ce qui ne circule pas, parce que l'histoire du café et du quatre sont liées à un point tel qu'au départ, le nom du quatre et du café sont les mêmes, c'est kawa. Donc voilà, donc en fait on buvait, on pilait le quatre en décoction et on le mélangeait au café. Donc en fait l'histoire du café et du quatre sont vraiment intimement liées, l'un a circulé, facilité par la colonisation italienne, et l'autre est interdit de circulation. Ça, c'est paradoxe, bon, pas si paradoxal que ça, mais assez intéressant. Donc, le quatre pousse en Éthiopie, donc sur les mêmes terres que le café, mais aussi donc au Kenya, au Yémen, à Madagascar et aux Comores. Donc, ces feuilles de cet arbre peuvent être pilées, comme je vous l'ai dit, bu en décoction, comme le café. Mais le mode, on va dire, posologique dominant, c'est vraiment de prendre feuille par feuille, chacun sa technique, et de la mâcher, de la garder ou pas dans la joue pour que le suc s'écoule et donc en attendant les effets stimulants. Alors quand on dit que c'est euphorisant, bon, c'est un peu, c'est pas non plus, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des amphétamines naturelles. Hein. Donc par exemple, il faut 5 à 6 heures de mâchage de quatre, donc une bonne après-midi en mode, on va dire tondeuse, enfin en mode... On est à fond, hein, pour libérer 5 mg d'amphétamine naturelle, alors qu'il faut 50 mg de catinone de synthèse pour une nuit festive. Donc on est sur vraiment des toutes petites doses d'amphétamine. C'est vraiment, très souvent pour blaguer, les gens à Diredawa disent que c'est une amphète de papy, quoi. C'est vraiment un effet stimulant, mais un peu plus, j'ai envie de dire, qu'un café bien boosté. Voilà. Et je voudrais dire autre chose. Donc sur ces deux, amphétamines, donc la catinone et la catéine, c'est qu'en fait, ce sont des alcaloïdes très labiles. Donc il faut bien avoir en tête, puisqu'on va parler des circulations de ces feuilles, que la durée de vie de ces deux alcaloïdes est de 48 heures. C'est-à-dire que dès qu'on cueille, il faut mâcher. Donc pour faire le tour du monde et pour mâcher à Washington en moins de 48 heures. C'est vraiment des stratégies de circulation hyper rapides que les acteurs vont mettre en place de façon illégale pour que le quatre puisse être mâché aux quatre coins du monde. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête parce que ça vient vraiment jouer dans les questions de circulation. Une autre précision quand même sur les effets concrets du quatre. Donc, pour moi, c'est un café un peu boosté. Donc c'est légère augmentation de la pression artérielle. On a une espèce d'état de réveil assez intense. On se sent aussi très agile intellectuellement. On parle beaucoup. On a l'impression d'être très concentré et de vraiment être assez fort. Enfin, le principe des amphétamines. On sent bon quand on a caté. Ça dénoue la parole et surtout, ça coupe la faim, ce qui est aussi pas rien en Éthiopie. Donc, on le mâche soit pour se mettre au travail, puisque c'est un effet stimulant, ou alors plutôt dans un mode de détente. C'est-à-dire, on s'assoit tous ensemble. On imagine qu'on met, on met des canapés là, on aurait pu d'ailleurs, on s'assoit, on s'allonge même, et on va mâcher tout doucement le temps que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte, et ça peut durer 5 heures, 6 heures. Quand ça retombe un peu, on reprend, et si on veut que l'effet retombe, ça retombe assez vite, et donc on peut espérer dormir vers 1h ou 2h du matin quand on a caté toute l'après-midi. Donc c'est des terrains avec, vous imaginez, des nuits extrêmement courtes. Voilà. Et juste aussi sur le quatre, pour dernière précision, c'est qu'il existe, un peu comme la vigne, diverses variétés de quatre. C'est-à-dire qu'en fonction, il va y avoir plusieurs variétés. Et même sur ces variétés de quatre, il va y avoir plusieurs quatre. C'est-à-dire que si on est sur les hauts des branches, sur les bourgeons, on va être sur des quatre beaucoup plus légers. Alors que si on va chercher les feuilles au plus bas de l'arbre, on va être sur des feuilles qui sont beaucoup plus fortes en alcaloïdes. Donc en fonction de la variété, on va avoir une teneur en alcaloïdes qui est beaucoup plus forte. Donc on achète aussi sa variété de quatre en fonction de l'effet qu'on recherche. On va chercher soit, donc ça c'est le quatre du quatre, c'est la Mercedes du quatre qui est dessinée ici, c'est le Abu Mismar. On le reconnaît à la forme de sa tige, ça veut dire le clou. Ça c'est des feuilles très légères, très peu astringentes. Et c'est un quatre assez doux qui monte tout doucement. Et donc, du coup, selon les variétés, dépend aussi le prix du quatre. On va avoir des quatre qui coûtent pour une après-midi 20 à 30 centimes d'euros. On va avoir des quatre comme celui-là, là, le Abou Mismar, c'est un peu un Romané Conti. C'est vraiment le 4, c'est 200, 300 euros pour une après-midi. C'est vraiment très cher. Et on a des 4 qui ne rentrent même pas sur le marché. C'est-à-dire qu'ils sont tellement onéreux et tellement prisés qu'ils ne sont même pas vendus sur les marchés. Ils sont directement, notamment, envoyés à la présidence à Djibouti. Donc on est vraiment comme pour le vin. C'est-à-dire on a des 4 bons marchés, des 4... chaque 4 correspond, on va dire, à une classe sociale. En 4 en fonction... Comme il n'y a pas, en fait, comme, contrairement à l'alcool, où à un moment donné, le corps dit stop, hein, voilà, le 4, le corps ne dit pas stop. Donc, en fait, la seule raison qui peut vous faire arrêter de cater, c'est une raison financière. Vous pouvez cater toute la journée sans jamais vous arrêter. Mais le corps ne dit jamais non. Voilà. Enfin, la nuit, il vous dit non, mais dans la journée, il ne vous dit pas non. Autre chose, oui, alors, il faut bien aussi avoir en tête que, donc aujourd'hui, je vous dis que le 4 peut être mâché à Washington, en Chine ou même à Marseille, on peut trouver du 4, mais il y a une trentaine d'années, enfin, entre 30 et 40 ans, la consommation du 4 était vraiment extrêmement circonscrite à l'est de l'Éthiopie. Je vais vous remettre une carte. Voilà, donc à l'est de l'Éthiopie, donc dans la région de Harar. Ici, donc, qui est le berceau historique de production du 4. Donc, c'était vraiment mâché dans cette région du Harargué par des hommes. C'est une consommation masculine, par des hommes musulmans et d'une certaine classe sociale. Donc, en fait, le 4, consommer du 4, c'est une pratique, on va dire, de distinction sociale. Tout le monde ne pouvait pas cater. Donc, des hommes... en général des érudits musulmans, des chers très souvent, donc que des musulmans, et les deux populations majoritaires cateurs sont les Oromos, qui cultivent le 4, et les Somalis. Et les Somalis vivent entre le Harargué d'Iredawa, on les retrouve aussi à Djibouti, et on les retrouve aussi au Somaliland, ce qui va avoir son importance dans les routes de circulation dans la sous-région. Voilà. Donc, ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, on peut dire que quasiment... un Éthiopien sur 10, 4, toujours les hommes, très majoritairement. Il y a quelques femmes qui catent, mais elles ne catent pas avec les hommes. C'est vraiment une pratique homosociale. Des musulmans, aujourd'hui, évidemment, 4, des chrétiens aussi, orthodoxes, et les gens du nord, du sud de l'Éthiopie. Là, si vous regardez, ça, c'est une carte assez récente, on voit comment la production et la consommation s'est étendue dans tout le pays. Et on cate à toutes les occasions. Il n'y a pas un mariage sans cate, il n'y a pas un enterrement, la collation post-enterrement, il n'y a pas un enterrement sans cate, il n'y a pas un baptême sans cate, et il n'y a même pas un week-end sans cate, voire même en semaine, quand on sort du travail, un peu comme on pourrait aller boire un apéro. C'est vraiment cette espèce de moment de détente du soir, puisque les gens ne boivent pas d'alcool, donc... c'est vraiment un moment de détente, et notamment pour les hommes, un peu à l'abri des injonctions et du monde du travail. On est tranquille, on n'est plus au boulot, mais on n'est pas non plus à la maison. Donc c'est un espèce de tiers-lieu où on est dans une espèce de... en tout cas, à l'abri des injonctions sociales, dans une espèce de calme et de détente. En tout cas, c'est revendiqué comme ça. Et c'est aussi, ça je vous l'ai dit, une consommation masculine qui participe à construire la virilité. Un peu comme la cigarette, je ne sais pas si vous avez en souvenir les cow-boys Marlboro des pubs des années 80. Bon, ben voilà, cater, c'est être un homme. Ça, en tout cas, c'est ce qui participe à devenir un homme. À l'inverse, le cat est très mal vu pour les femmes, notamment célibataires. Et il est accepté, on va dire, pour les femmes les plus âgées ou les femmes mariées, c'est-à-dire les femmes dont le désir, puisque un des effets du cat, c'est une augmentation de la libido. Donc, il est plutôt interdit pour les femmes qui ne sont pas mariées et pour qui ça pourrait poser un petit peu le problème de, on va dire, croquer la pomme. Donc là, ça serait croquer le cat. Et à l'inverse, et donc là, j'aurais presque fini avec mes précisions, si ce sont les hommes qui broutent, ce sont les femmes qui vendent. Ce sont les femmes qui sont spécialisées dans le commerce de cat. Il y a à Iredawa, quand j'ai fait mon enquête, il y avait 3 hommes vendeurs, des centaines et des centaines et des centaines de femmes, je ne peux même pas les compter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est dans la transaction entre l'acheteur et la vendeuse, la beauté de la vendeuse joue sur le prix du CAT. Plus une vendeuse est belle, et plus le CAT, même si c'est le même que celui de sa voisine, peut être vendu cher. Donc la beauté a un effet d'inflation sur le prix du CAT. Et le moment d'acheter du CAT est un vrai moment de transaction marchande, mais aussi un moment de transaction intime. C'est-à-dire que, puisque, comme je vous l'ai dit, le CAT a des effets sur la libido, les hommes attendent d'une belle vendeuse que le CAT vienne booster, enfin, que la vendeuse vienne booster les effets de son CAT. D'où toujours la construction de la virilité. Donc, une belle vendeuse a forcément beaucoup plus de clients, mais bon, après, tout est subjectif. Hein, toutes les vendeuses ne sont pas belles pour tout le monde, mais on entendra « Ah non, non, elle, j'y vais pas, j'aime pas son corps ». Voilà, c'est la façon de choisir sa vendeuse. Donc, l'effet de et donc, du coup, pour les femmes, c'est une inflation, ça permet une inflation du prix. Donc, il n'y a pas que la variété qui compte. On peut vendre un CAT de piètre qualité. Si on est très belle, on peut vraiment pousser le prix. Voilà, donc ça, je vous ai à peu près mis tout le contexte sur le CAT en quelques mots. Donc, moi, j'ai mené mon enquête à Diredawa. Donc, je vais vous remettre la carte. C'est une grande ville, hein, c'est pas. Et donc, dans les villages environnants, j'ai travaillé avec les paysans, avec les commerçantes, avec les grossistes, avec les balayeurs des marchés, avec les postiers, puisque le CAT circule par la poste, avec les conducteurs de camions, avec les présidents de sociétés d'export, avec les contrebandiers, avec les consommateurs, et aussi avec les douaniers. Et à partir donc, de cette enquête, mon objectif, c'était d'essayer de montrer comment circule le CAT, où il circule. Et surtout, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'essayer de comprendre comment ce produit qui ne circulait pas auparavant, comment il circule et quels effets ça produit localement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est des millions d'euros, du jour au lendemain, il y a une plante qui circule dans le monde entier et forcément, les effets localement sont énormes d'un point de vue économique, vous vous en doutez, mais forcément, s'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques et notamment des enjeux identitaires. À qui est la plante, qui la cultive, qui la commerce, qui se fait le plus d'argent sur ce produit. Donc, c'est tous ces enjeux, à partir de Diredawa et de sa région, que j'ai essayé de travailler. Donc, je vous propose de reprendre la même démarche, c'est-à-dire que je vous propose de voir comment le CAT circule et où, et ensuite de revenir à Diredawa pour voir localement qu'est-ce que ça vient agiter, notamment comme tension politique, c'est un gros enjeu, mais surtout comme tension identitaire. Entre les personnes qui vivent à Diredawa, ceux qui cultivent, ceux qui commercent, les musulmans wahhabis ou les musulmans qui se disent soufis, entre les chrétiens et les musulmans, ou entre les oromos et les somalis. Voilà. Le CAT circule essentiellement. Alors, on a souvent des articles dans le Figaro, c'est un journal qui adore parler du CAT, en nous disant toujours « Ah, mon Dieu, le CAT envahit la France, nos pauvres petites têtes blondes. » Bon, en fait, les grosses destinations du CAT, et de loin, et c'est par elles qu'on va commencer, sont vraiment celles de la sous-région. Donc là, vous le voyez sur cette carte, le CAT circule dans le monde entier, mais vraiment, les deux gros pays importateurs sont Djibouti et le Somaliland. Et c'est très pratique, et c'est pas un hasard, c'est que Addis Abeba, Diredawa, donc la ville dans laquelle j'ai travaillé, et Djibouti sont reliés par un train. Donc ça va forcément aider. Donc Djibouti, c'est le deuxième plus gros importateur de CAT au monde. Et là, le CAT y est légal. Donc le CAT circule par le train, quand le train circulait encore, parce qu'il s'est arrêté de circuler en 2014. Et vraiment, la grosse augmentation du commerce entre Diredawa et Djibouti, c'était dans les années 70-80. Et les années 70-80, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous en avez entendu parler, c'était l'époque du régime marxiste-léniniste de Mengistu. On était dans une terreur rouge, c'est l'époque des grandes famines, la chute d'Haïlé Sélassié, l'arrivée de Mengistu. Et donc, en fait, là, toutes les femmes montent à bord du train, toutes les femmes de Diredawa montent tous les jours à bord des trains pour aller distribuer du CAT sur toute la ligne de chemin de fer et exporter vers Djibouti. Et c'est vraiment là le départ massif de l'exportation du CAT de Diredawa vers Djibouti. Même s'il circulait auparavant, là, on a un vrai premier gros boom. Et le CAT circule aussi de façon officielle, mais il est placé sous monopole d'État. Donc, il y a des containers sur le train qui sont plombés, qui partent tous les jours vers Diredawa, Et sur ces trains, tous les jours, vous avez des contrebandières. Donc, contrebandières qui ne payent pas les billets, qui montent, le train circule très lentement, qui montent même pas par la gare. Elles montent à bord des trains, soit par la gare, soit par des passages à niveau quand le train ralentit. Et toutes les stratégies pour ces femmes. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup insisté là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Toutes ces femmes, évidemment, ont développé des stratégies matrimoniales, notamment pour monter à bord des trains, puisque entre les douaniers, la police, les frontières et les cheminots, parce qu'il faut payer son ticket de train, soit on est l'épouse d'un cheminot, soit on est l'épouse d'un douanier, soit on est l'épouse ou la sœur, enfin en tout cas, on est dépendante d'un homme à bord des trains. Et si c'est pas le cas, les femmes en parlent de façon très pudique évidemment, mais les hommes, les cheminots beaucoup moins. C'était des chantages sexuels pour pouvoir circuler sur les trains. Donc c'est des centaines de femmes qui ont fait sortir, on va dire, le cat de Dire Dawa. 1990, le dergue tombe. Arrivée de Meles Zenawi, donc le nouveau premier ministre éthiopien, qui libéralise, je mets plein de guillemets, l'économie. Il crée 4 coopératives d'export et il attribue des licences privées. Et de cette façon-là, le CAT donc, reste, on va dire, sous contrôle d'État, et plus particulièrement sous le contrôle du parti, mais il échappe aux femmes. Les femmes ne sont pas détentrices de licences. Les sociétés d'export ne sont évidemment pas dirigées par des femmes. Donc on a une première éviction des femmes de la globalisation du CAT. Et ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on pourra revenir, mais moi qui m'ont beaucoup intéressée. Donc pour résumer, on a Djibouti, deuxième gros importateur du CAT au monde, un commerce impulsé par les femmes, récupéré par l'État, éviction des femmes, mais... Pour vous donner des chiffres, on est sur 18 000 kilos qui partent tous les jours de Dire Dawa, juste de Dire Dawa vers Djibouti. 9 000 kilos sont avec les coopératives, 6 000 kilos avec les détenteurs de licences, mais on a quand même 3 000 kilos, c'est pas rien, par jour, qui passent en contrebande. Mais la contrebande, au début, les femmes ont réussi à la garder, enfin, en garder un certain monopole, mais après, on a décidé de stopper le train. Donc, il a fallu monter à Djibouti avec des camions, des voitures, ça devenait plus coûteux, plus dangereux, des checkpoints, etc. Et donc les femmes ont abandonné. Et elles sont revenues sur le marché au local. Donc on est sur 7000 tonnes par an de CAT qui part vers Djibouti. Donc on est loin de la grande peur du Figaro pour les têtes blondes françaises. 7000 tonnes par an, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la production de miel en France en 2022. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ce qui arrive en France, vous allez voir. L'autre gros point d'export, c'est... je vais vous remettre la carte. C'est le Somaliland, donc la région d'Hargeisa. Donc là, on est encore sur un autre niveau, puisqu'on est à 90 000 kilos de CAT chaque jour. Donc, beaucoup plus, soit 32 000 tonnes par an. 32 000 tonnes, en checkant sur Internet, j'ai tapé 32 000 tonnes, et là, j'ai eu l'info Google... C'est ce dont la France a besoin de graines de moutarde pour fabriquer de la moutarde par an. Donc là, voilà, de Dire Dawa partent 32 000 tonnes. C'est tellement énorme, d'ailleurs, Oui, 32 000 tonnes par jour. Et là, dans le cas Somalie, Par an, pardon. Oui, pardon. Oui. Je ne suis pas très chiffre. Enfin, vous allez le remarquer. Je les avais bien notés. J'avais même mis du stabilo, mais... Merci. Donc là, c'est une autre stratégie, pas de coopérative, pas de licence privée, pour que l'État garde le contrôle sur l'exportation du CAT. Il soutient un monopole. Le monopole, c'est un couple. Leur société s'appelle la 571, et c'est Soura. Donc Soura, elle est éthiopienne, de Dire Dawa. Elle a la main mise sur tous les champs et sur tous les producteurs, et elle est mariée avec un commerçant de Hargeisa, Somalie, du Somaliland, et donc elle achète, elle envoie, il revend. Ils ont 2 avions sur le tarmac de l'aéroport de Dire Dawa, ils ont 20 pick-up Isuzu, un pick-up c'est 7 tonnes de CAT, Et donc, après, il passe par des raisons, on va dire, claniques pour pouvoir acheminer le 4. Donc, le 4 de Diredawa de la 571, il va à Hargeisa, il va dans tout Somaliland, il redescend sur le Somalie. Et il inonde aussi toute la zone ici-là. Donc, eux, ils ont un monopole, ce qui permet à l'État, tout bêtement, d'éviter qu'il y ait l'émergence d'autres femmes commerçantes et d'autres commerçants, parce que plus il y a de commerçants, plus il faut les identifier, plus il faut les identifier parce qu'il faut pouvoir les taxer notamment par exemple sur la TVA, qui est très au point en Éthiopie. Donc en fait, quand on a un monopole qui tue toute la concurrence, on peut s'appuyer sur ce monopole d'un point de vue politique et économique pour éviter que les taxes et l'argent du CAT vous échappent. Voilà, donc ça c'est la stratégie qui a été mise en place par l'État éthiopien pour contrôler l'argent du CAT côté Somaliland. Et puis c'est très pratique aussi en période électorale, puisque dans les bureaux de... Ça, c'est... Dans les bureaux de... Par exemple, pendant les élections, on passe... les partis passent... Enfin, et là, c'est le parti, passe son temps à distribuer du CAT. Ça permet de s'assurer une certaine clientèle. Si on élargit... Donc là, on a les deux gros pays importateurs. Si on élargit au-delà de la corne de l'Afrique, toutes les autres exportations sont aujourd'hui illégales. Il faut bien avoir en tête que cette illégalité, elle s'est faite en cascade. En fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans ses recommandations, ne classe pas le CAT comme une drogue. Donc à défaut d'une sentence internationale sur le statut du CAT, en tout cas en refusant de le considérer comme une drogue, il appartient à chaque pays de légiférer. La France a interdit le CAT en France, elle le connaissait bien, puisque Djibouti est indépendante que depuis les années 60, donc les Français connaissaient très bien le CAT, ils l'ont interdit dès la fin des années 50. Mais par exemple, la Norvège l'a interdit en 84, la Suède en 87, la Hongrie en 97 ou 98. Et jusqu'à très récemment, le CAT était légal aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne et en Chine. Ce qui est très pratique pour les circulations, parce qu'en fait, le gros des consommateurs de CAT sont situés aux États-Unis. Et pour l'Europe, ils sont situés dans le nord de l'Europe, entre la Grande-Bretagne... et surtout la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc c'est très pratique pour envoyer du CAT. Si les États-Unis, les frontières sont fermées parce que le CAT est interdit, Diredawa envoie en Chine. Et de la Chine, quand c'était autorisé, de la Chine, comme les importations aux États-Unis surveillent moins ce qui arrive de Chine, le CAT transitait directement de la Chine par les États-Unis. Et de la même façon, il arrivait en Grande-Bretagne, il y avait 2 à 3 vols par semaine qui arrivaient à Londres, je crois 1 ou 2 aux Pays-Bas. Et après, depuis les Pays-Bas et depuis l'Europe, le CAT était redistribué par camion dans toute l'Europe, jusqu'à Marseille par exemple. Mais en 2014, le CAT est interdit en Chine. La Grande-Bretagne et les Pays-Bas le prohibent en 2013. Donc ces deux voies-là d'entrée vont se refermer. Donc il va falloir trouver d'autres stratégies depuis Diredawa pour pouvoir faire passer le CAT. Alors quand c'était ouvert en Chine, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, bon, il y avait des avions directs. Hein, Diredawa, ça se fait très bien. Diredawa, Addis-Abeba, Londres. Ça, c'est pour ceux qui avaient vraiment les moyens. Sinon, on envoyait par valise. 2 valises de 25 kilos de CAT. Si vous revendez votre CAT à 25 euros le bouquet pour l'après-midi, dans une valise, vous en mettez une cinquantaine. Si vous envoyez 2 valises, vous faites un beau bénéfice. Donc, beaucoup de gens allaient à l'aéroport avec des valises de CAT. On confiait son CAT et le CAT partait à Londres ou il partait en Chine. Et de Chine, très souvent, il retransitait vers les États-Unis. À partir du moment où on ferme, les valises, ça devient très compliqué. Et pourtant, ça continue. Et quand ça, on le voit quand on surveille les douanes. Et on le voit aussi quand on discute avec les gens. Un des gros points d'accès, par exemple, c'est le Addis Abeba, Dakar-Washington. Dernièrement, donc Dakar, ils s'en sont rendus compte. On le voit dans la presse sénégalaise. Donc du coup, ça va très vite. C'est vraiment... moi, je trouve ça assez fascinant. Dès que Dakar a fait 2, 3 ou 4 prises... Hop, ça change, ça fait Diredawa, Addis Abeba, Addis Abeba, Cotonou, les États-Unis. Enfin, en passant par la France, parce que c'est le vol Air France qui passe à Cotonou. Oui. Parce que sinon, c'est des vols Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines, c'est une compagnie aérienne qui date des années 50. Mm. Elle a plus d'une cinquantaine de destinations dans le monde. Il y a quasiment un vol pour la Chine par jour. C'est une compagnie gigantesque. Donc ça, c'était les valises. Et de la même façon, quand on avait moins de moyens, on peut aussi... Donc, toutes les mères de famille, par exemple, vont à la poste de Diredawa. Il y a la queue à la poste de Diredawa. On met son 4 frais dans une boîte. On l'envoie par UPS. Et par UPS, quand c'est légal, le lendemain, on cat votre 4 que vous avez envoyé à Londres. Donc ça, c'était très pratique quand c'était ouvert. Quand il a fallu fermer les frontières, forcément, les gens ont dû se réorganiser. Ceux qui ont les moyens... Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est ce qui était très pratique avec UPS, c'est qu'on peut surveiller en ligne sur son téléphone l'arrivée de son colis. Et ça, c'était quelque chose d'hyper important parce qu'il faut quand même faire confiance. Quand vous envoyez pour, on va dire, 40 à 50 euros d'UPS, 40 à 50 euros de CAT, vous avez quand même dépensé 100 euros. Tout le monde ne peut pas dépenser 100 euros quand même. Vous pouviez surveiller votre colis, vous savez qu'il est parti, vous savez où il est, vous savez s'il est arrivé, s'il est arrivé à la bonne adresse, et on a signé. Donc ça facilitait le commerce. À partir du moment où c'est interdit, on ne peut plus suivre son colis. Donc en fait, le lien entre l'expéditeur et celui qui reçoit doit être un véritable lien de confiance. Sinon, le risque, il est trop gros. Et comme il va y avoir de plus en plus de risques, parce que envoyer, ça va coûter plus cher, parce que le risque de perdre va être aussi onéreux, quels sont les acteurs qui vont, et les actrices qui vont disparaître du commerce du CAT et encore de cette globalisation? C'est les femmes. Les femmes vont avoir moins les moyens, vont moins prendre le risque financier d'expédier du CAT. Donc la Poste, UPS, et le troisième gros, on va dire, moyen d'envoyer du CAT à travers le monde, c'est toujours la Poste. Mais là, on ruse, parce que comme c'est interdit, ça devient de plus en plus compliqué, donc il faut essayer de trouver des trucs moins chers. Donc maintenant, on lyophilise le CAT, c'est-à-dire qu'on le fait sécher, on le pile, on le met dans une boîte à chaussures, on étiquette aîné ou thé, on va à la poste et on envoie son colis vers la Chine, en espérant qu'il passe vers les États-Unis. On l'envoie aussi à Londres ou en France. Il y a des saisies très, très régulières à Paris de CAT. Donc, on appelle ça le gogoma. Et en fait, ça se consomme, reliophilisé dans du coca. Donc là, en fait, on transforme la marchandise pour ne plus être... pardon, je te tourne le dos. Pour ne plus être empêtré par les délais des 48 heures. Ça coûte moins cher en termes d'envoi. Ça coûte moins cher parce que le CAT qu'on lyophilise et qu'on pile, c'est le CAT le moins onéreux possible. C'est le truc que personne ne mâcherait. Personne n'a envie de mâcher ce CAT qu'on va piler là. Donc c'est du CAT pas cher. L'envoi coûte moins cher. Si on perd, on perd moins d'argent. Donc ça, c'est une des solutions, par exemple, qui reste, on va dire, de contrebande féminine. Sinon, tout le reste du CAT, toute la contrebande... Les femmes en ont été écartées. C'est les hommes qui courent ces risques, c'est les hommes qui ont les moyens. Et non seulement ce sont les hommes, et plus précisément, parce qu'il faut des rapports de confiance, puisque les frontières se ferment et que c'est la prohibition, on va dire, assez générale, il faut être sûr donc, de ces destinataires. Et donc, du coup, ça va favoriser un groupe social plus qu'un autre. Donc, je vous ai dit à Diredawa, les principaux brouteurs sont les Oromos et les Somalis. Et les Somalis sont un groupe social qui a une diaspora immense à travers le monde, entre 1 million et 2 millions. Et c'est des chiffres qui sont vraiment, je pense, en deçà. Et donc, en fait, c'est les Somalis surtout. On a toujours, comme ils disent, on a toujours un frère, on a toujours un cousin. Les Oromos ont une diaspora qui est beaucoup plus limitée. Géographiquement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces circulations ou... Ouais. On dit. Moi, j'ai jamais fait le gogoma. J'ai jamais lyophilisé du CAT dans du coca. On dit que ça fait de l'effet. Je sais pas. Et après... ça donne surtout l'impression de caté. Enfin, il y a quelque chose de très dans l'imaginaire. Il y a quelque chose de se dire, bon, bah voilà, on a caté, c'est un peu comme si on était encore là-bas, ou ça nous brûle. C'est aussi un lien social. Je pense que c'est pas tant... évidemment, ça vient arrondir les fins de mois. Si c'était les femmes qui le faisaient, notamment, c'est parce que ça arrondit les fins de mois, ça paye l'école des enfants. Mais il y a aussi un comment on reste ensemble, comment on fait communauté, comment on se dit, bah, on va rentrer l'été prochain. Enfin, c'est des choses qui font du lien social. Et je suis pas sûre que le Gogoma... l'effet, ce soit la stimulation, plus que de se dire j'envoie un colis, je reçois un colis, je suis dans une sociabilité, dans une communauté. Mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si vraiment ça fait de l'effet ou pas, parce que je n'ai jamais...
C'est un peu comme...
Voilà. Je pense que je vous ai à peu près brossé un portrait assez... en tout cas, qui nous permet de continuer. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu ce tour du monde, on se rend compte, là vous l'avez un peu vu, j'ai un peu semé des indices au fur et à mesure, on se rend compte qu'en passant les frontières, le cadre devient de l'or pour les uns, une drogue évidemment pour les autres, ce qui vient complexifier les circulations. Et ce n'est pas sans incidence locale. Une des premières incidences que vient provoquer cette circulation et que viennent provoquer cette circulation et notamment surtout la prohibition, c'est même le changement, c'est ce que je viens de vous dire, le changement de matérialité de la marchandise. On était sur des feuilles qui avaient deux jours de vie possible et là on se retrouve avec maintenant désormais du 4 séché et donc une contrebande, comme je vous l'ai dit, à deux vitesses. Ceux qui ont du capital social transnational et ceux qui ont du capital financier. Ce qui exclut une majorité, enfin en tout cas une grande majorité des contrebandiers, des contrebandières possibles. Plus le cadre circule également, donc plus il y a un changement d'acteur. Je vous l'ai dit, je le redis, parce que c'est vraiment important. Ce sont les femmes les premières évincées de la globalisation, du cadre. Et ce qui est intéressant, et ce qu'il faudrait que je voie dans mes prochains terrains, c'est que même, on va dire, même les hommes qui ont peu de moyens sont aussi évincés de cette contrebande. Et la question, c'est la façon dont ils vont se recycler sur le marché local. Parce que pour l'instant, on a un monopole des femmes sur le marché local. Mais par exemple, sur mes derniers terrains, il y avait 3 hommes. Ils n'étaient pas là avant. Mais comme il n'y a que... comme c'est la source financière principale, c'est le revenu principal de la ville et de la région, les hommes, forcément, se disent, s'il y a de l'argent à se faire, si on ne peut pas se le faire, on se faire de l'argent en exportant, on va se rabattre sur le marché local. Et on le voit, et les femmes le disent, qu'elles se battent pour que les hommes ne s'installent pas. Parce qu'il y en a 3, il y en a 3 qui ont réussi, mais il y en a plein d'autres qui ont échoué. Et ça, je ne les ai pas vus, et il faudrait que je réenquête là-dessus. Et par exemple, les 3 hommes qui ont réussi, il y en a un, c'est le fils d'une contrebandière mythique du train, qui était mariée avec le conducteur du train, Sapho, elle s'appelle. Ouais. Elle pouvait cacher le 4 dans la cabine. Et la cabine n'était pas accessible par les douaniers et les policiers. Donc là, c'était vraiment la stratégie matrimoniale de premier plan. Donc lui, c'est le fils de Sapho. Le deuxième, il commerce avec sa femme. Et le troisième, il commerce avec sa sœur. Donc, malgré tout, même si on a des hommes qui s'implantent sur un précaré féminin, ils s'implantent et ils arrivent à s'implanter, eux, parce qu'il y a une aura féminine. Mais ça ne veut pas dire que, petit à petit, les hommes ne vont pas s'installer sur le marché local. Donc, ça aussi, ça aura des incidences qui sont vraiment intéressantes. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une transaction marchande et une transaction intime entre la vendeuse, et l'acheteur. Donc ça vient poser la question des renversements des rapports de sexe. C'est-à-dire que si, par exemple, ce sont les hommes qui se mettent à vendre du cat, ils vont le vendre à qui? À des hommes. Est-ce que des hommes, déjà, vont vouloir acheter à des hommes puisqu'ils attendent l'effet augmenté de la vendeuse? Et si les hommes vendent, est-ce qu'ils vont vendre à des femmes? Est-ce que, du coup, ça va booster la consommation des femmes? Et par exemple, Omar, donc c'est le fils de Sapho, donc la très célèbre contrebandière de Kat, bah, Omar, sa clientèle, c'est des femmes. Il me dit, ouais, tu me j'avais jamais compté, tu ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que, parce que le 4, on y va le matin, on l'achète vers 9h, 10h, c'est comme le marché, on ne fait pas son marché l'après-midi. Donc on y va le matin, comme ça à 13h, on est dans les starting blocks et on y va, on est prêt. Et les femmes, elles arrivent vers 14, 15h, discrètement. C'est-à-dire que le gros des acheteurs sont venus le matin, c'était des hommes. Et dans l'après-midi, il me dit, bah ouais, en fait, quand je compte et quand j'observe, oui, j'ai des femmes. Et si ce n'est pas elles qui viennent, elles envoient un petit frère. Donc, qu'est-ce que ce changement d'acteur de la contrebande du CAT va venir même changer dans les pratiques du CAT et dans les rapports entre vendeurs et vendeuses? Et même, est-ce que ça va féminiser la consommation du CAT? Voilà, ça, c'est des questions, mais je peux pas encore y répondre. Autre point qui m'a vraiment, sur lequel j'ai vraiment travaillé, c'est la façon dont plus le CAT circule, plus il est mâché, c'est-à-dire plus il devient transculturel, plus tout le monde a accès au CAT, et plus localement, on sent qu'il y a des recroquevillements identitaires autour du CAT. C'est comme si le CAT devenait une icône identitaire. Les Oromos, de plus en plus, vont dire « Nous, on est comme le CAT, on est né au pied de l'arbre, c'est nous qui le cultivons. » Les Somalis, « Oui, ok, vous cultivez le CAT, mais c'est nous qui l'avons transformé en or. » C'est-à-dire que sur des communautés qui vivent ensemble, on sent comment l'argent du CAT, et pas que l'argent, mais la question de savoir à qui, d'un point de vue communautaire, appartient à cette plante. Qui peut légitimement revendiquer son rapport à la plante? Et là, on sent que ça crée des frictions. Avec une espèce de mythe de commerçant somali qui... Alors effectivement, il y a la diaspora, mais il joue vraiment sur nous, on a le sang du commerce. Donc ça vient essentialiser des différences et ça vient même les pousser en friction. Avec les Oromos agriculteurs, des Somalis commerçants dans le sang qui ont transformé la plante en or. Mais ça vient aussi créer des frictions au sein même de la communauté, de cette communauté musulmane. Parce que de plus en plus, le CAT De plus en plus, il y a des discours qui s'opposent au CAT à Dire Dawa. Et donc, par exemple, l'après-midi à Dire Dawa, il n'y a plus personne dans la rue. Tout le monde est donc allongé, en train de brouter. Et tout le monde sait que si on veut trouver quelqu'un, il faut aller dans le Mabraz. Donc, c'est le lieu où on CAT de un tel. C'est vraiment le lieu de sociabilité de l'après-midi. Et puis, parfois, il y a quand même des hommes ouvertement assis en terrasse, sous les parasols alors qu'il fait une chaleur étouffante, et qui boivent du café, visiblement. Ils sont dans la rue, dans l'espace public, pour être vus dans la rue, signifiant ainsi qu'ils ne sont pas dans un mabraz. Ça m'avait un petit peu... je me suis dit, bah tiens, eux, ils catent pas. Qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Il fait très chaud. Et en creusant cette présence masculine dans la rue et pas dans les mabraz, ce qui est quand même très surprenant, je me suis rendu compte que c'était vraiment des revendications liées à des pratiques de l'islam. Des musulmans qui disent que cater, c'est pas être un vrai musulman. Et donc pour les cateurs, qui revendiquent un cat dans des pratiques soufis, ceux qui ne catent pas sont des gens qui pratiquent un islam qui vient d'ailleurs. Alors c'est des façons très pudiques, parce que c'est très tendu, de dire l'islam qui vient d'Arabie Saoudite, ou autrement dit l'islam wahhabi, qui effectivement prohibe le cat. Donc, en fait, même dans la façon de concevoir ce qui va relever d'un islam d'ici opposé à un islam d'ailleurs, le CAT vient jouer sur ces tensions identitaires. Voilà. Un dernier point, évidemment, le point de vue économique. Donc ça, je l'ai un peu tissé aussi au fur et à mesure de ma présentation. C'est évident que économiquement, le CAT fait vivre des paysans, des vendeurs, les balayeurs de marché, les camionneurs, parce que c'est énormément de gens qui conduisent des camions, des véhicules. C'est toute une économie et un éventail d'acteurs vraiment considérable, à commencer par les paysans, qui évidemment au début faisaient du café. Ils ont été un petit peu forcés à faire du café, mais il faut quand même savoir que le kilo de café en 2010, c'est 14 centimes d'euros pour un paysan éthiopien. Paysan éthiopien, je le dis aussi, mais dont les parcelles sont inférieures à un demi-hectare. Donc, c'est des mini-parcelles qui ne permettent pas une suffisance alimentaire, enfin, à peine une suffisance alimentaire, surtout si on fait du café, qui ne permettent pas de vivre sur un demi-hectare. Le CAT, donc 14 centimes d'euros le kilo de café. Le CAT, c'est 1,50 € le kilo. 1,50 € le kilo, et ça se cultive toute l'année. Parce qu'il y a des variétés qui poussent avec la pluie, d'autres qui peuvent se récolter au moment où c'est le plus sec, sur des sols plus arides, en fonction de là où vous avez vos terres. Donc en fait, il y a plusieurs récoltes par an en fonction des variétés. Donc 1,50 € le kilo, c'est beaucoup plus rentable, vous imaginez bien, que 14 centimes d'euros le kilo de café. Donc c'est pour ça que de plus en plus de paysans se mettent au CAT. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1961, donc il y a presque 60 ans, la superficie du CAT, c'était la taille du département de Paris, de production du CAT. Aujourd'hui, on est sur une superficie qui est un peu supérieure à la taille du Rwanda. Donc on a une explosion, on est sur 800 millions de kilos par an. 800 millions, c'est la production de laitue en France. Donc c'est énorme, mais forcément on se convertit au CAT. Parce que comme je vous l'ai dit, au pied des cateras, on fait pousser les oignons, on fait pousser tout ce dont on a besoin pour manger. Donc on est autosuffisant d'un point de vue alimentaire. Ça n'empêche pas d'avoir une ou deux bêtes, justement ça permet puisque ça rapporte. On peut évidemment construire une petite pièce à côté pour faire une cuisine, on peut envoyer ses enfants à l'école, ce que ne permet pas le café. Le cours du café chute inlassablement. Le prix du CAT, il n'est pas indexé mondialement, il est fixé localement. Donc la conversion, alors c'est plus compliqué que ça, enfin, ils ne sont pas convertis du café au CAT, mais en tout cas, il y a de plus en plus de paysans qui se mettent au CAT. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le café, mais en tout cas, il y a de plus en plus de paysans qui se mettent au CAT. Et donc cet aspect économique, il est un petit peu, c'est un équilibrage un peu tendu pour l'État, parce qu'à la fois, il faut qu'il contrôle tous les acteurs du commerce, puisqu'il faut qu'ils les taxent. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les coopératives, les licences de commerce, le fameux monopole de Soura et de son mari. Donc il faut qu'il taxe et que ça lui rapporte de l'argent. Il ne faut pas que l'argent lui échappe. Il faut aussi qu'il surveille les bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, tout le jeu politique de l'État, c'est d'éviter l'émergence de figures de la réussite du CAT. Parce qu'il ne saurait pas où ces figures et comment ces figures vont utiliser leur argent. On est dans une région avec un passé et un présent indépendantiste, où on sait que dans les années 70, 80, 90, le CAT et les commerçants de CAT ont financé les luttes indépendantistes. Et donc, évidemment, la peur pour l'État central, c'est que le CAT finance de possibles velléités d'autonomie de tout l'Est éthiopien. Donc là, il y a vraiment un enjeu politique de contrôle des finances qui est central pour l'État central, justement. Donc on est dans cet équilibrage, à la fois où il faut laisser tout le monde vivre du CAT, sans pour autant que des figures émergent, sans pour autant que ceux qui s'enrichissent ne soient pas contrôlés par l'État. Donc c'est un équilibrage politique et économique assez compliqué. Et évidemment, comme tout le monde vit à peu près, ou en tout cas vit mieux que n'importe quel paysan, notamment grâce au CAT, il y a aussi une espèce de catatonie qui se crée. C'est-à-dire que pendant que les gens ont le ventre plus plein, pendant qu'effectivement on peut vivre du CAT, pendant qu'on peut envoyer ses enfants à l'école, ça calme aussi les velléités indépendantistes. Donc il y a aussi, par exemple, si vous discutez avec des gens qui sont un peu nerveux sur sur une volonté de se séparer de l'État central, donc on parlait de l'État central comme des colons, de dire, moi, de toute façon, je brûlerai tous les champs de CAT, parce qu'à cause du CAT, tout le monde a de l'argent, tout le monde a le ventre plein, et donc on s'endort. Voilà. Donc, ces enjeux économiques et politiques sont valables à l'échelle, on va dire, locale et nationale. Et puis se posent aussi finalement des questions d'enjeux politiques à plus grande échelle. Puisqu'il y a effectivement donc un fort contrôle de l'État central sur le CAT, mais il y a aussi un fort contrôle international sur une plante qu'on empêche de plus en plus de circuler. Et là aussi, c'est assez intéressant comment ça vient à choper officiellement. Donc je vous l'ai dit, l'OMS n'a pas statué, en tout cas n'a pas rendu d'avis contre le CAT, notamment sur la question de est-ce que c'est une drogue ou pas, l'OMS a répondu non. Et pourtant, toutes les fermetures de frontières sont expliquées sur un prétexte de guerre contre la drogue, etc. Et puis en fait, on se rend compte, quand on écoute Theresa May, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a quelques années, quand on écoute aussi les infos aux États-Unis, parce qu'il y a des saisies de CAT assez récentes, ou aux Pays-Bas, ou en France, dans le Figaro, on se rend compte à quel point c'est pas tant une question de... Le point central, c'est pas tant une question de contrôle de circulation d'une drogue. La question, c'est vraiment comment ça vient faire ressac sur l'immigration. Par exemple, vous lisez la presse chinoise, ou quand je suis allée en Chine, il y a des panneaux dans les malls, notamment où il y a beaucoup d'Éthiopiens et Somaliens dans un quartier à Guangzhou. C'est vraiment attention aux hommes à la peau sombre, attention, ils consomment du CAT, c'est une drogue de violeur. Aux Pays-Bas, une presse, et même le Figaro, c'est le bruit et l'odeur. C'est vraiment, oui, mais quand il y a un arrivage de CAT, ils en jettent partout, il y a des embouteillages. En Grande-Bretagne, c'est les hommes, ils font rien, ils gaspillent l'argent du foyer, puis quand ils rentrent, ils battent leurs femmes. Ça vient vraiment à choper, non pas sur des questions sanitaires, ça vient vraiment à choper sur des questions d'immigration. Et je vais même aller plus loin, aux États-Unis, ça vient même à choper sur des questions religieuses. Parce que les gens à la peau sombre qui catent ont, je cite, presse américaine, des noms à envoyer à Guantanamo. Parce qu'il y a eu un article l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ça revient souvent, comment le CAT financerait le terrorisme islamique. Donc voilà, donc au nom de politique sanitaire, bon ça après c'est des choses dont on peut discuter, on sait très bien qu'une drogue c'est une catégorie morale et surtout pas scientifique, on voit comment, et j'ai toujours trouvé ça fascinant, c'est pour ça que j'ai mis ça pour conclure, comment une plante qui est née avec le café, elle a été exportée par ce train que vous avez vu, la ligne de chemin de fer que je vous ai montrée, qui a été construite par les Français pour exporter le café. Réutilisée évidemment par les Italiens pour exporter le café. Le CAT, il a grandi le long de cette voie de chemin de fer, comme le café. Comment le café est devenu une marchandise de consommation tout à fait commune? Je ne sais pas qui peut imaginer une journée sans café. On a deux plantes qui sont intimement et historiquement liées. Je ne sais pas si... Oui, ou la ricorée ou du thé. Après, on pourrait parler du thé, c'est aussi... Mais voilà, c'est juste pour souligner un petit peu cette ambiguïté. Comment on a deux produits, deux marchandises, qui ont des destins différents. L'un au nom de la guerre contre la drogue, qui est assez fallacieuse. Alors que, effectivement, les Oromo disent souvent, enfin les paysans Oromo avec qui je travaille me disaient souvent de façon différente, mais sur les paquets de café en France, on voit sur le café éthiopien, on voit des Éthiopiens, c'est même pas nous, c'est les chrétiens orthodoxes du Nord dans leur fichu blanc. Et en fait, le café, c'est nous qui le cultivons, et quand vous le consommez en France, les gens pensent que l'Éthiopie, c'est une Éthiopie chrétienne, orthodoxe, dans un atala tout blanc, alors que bah, non, nous, les Oromos, on n'est pas comme ça. Et vous buvez ce café que nous, on cultive et dont vous nous avez un petit peu dépossédé et dont les chrétiens orthodoxes nous dépossèdent. Et le CAT, on voudrait vous en envoyer, vous n'en voudriez pas. Voilà, pour conclure... un peu brièvement. Je ne sais pas si j'étais claire, je suis désolée, je suis un peu... c'est plus trop mon heure.
Merci.
J'ai tenu les temps, ouais, je n'ai pas été trop bavarde. Non, non. Mais...